Bien, il y a des études qui démontrent que ça a l'air qu'on donne à peu près 4 secondes hein, qu'on accorde à une œuvre d'art avant de passer à la suivante. Dis-moi ce que dit le communiqué du Festival Art Souterrain de Montréal. Pour sa 18e édition, bien, le festival décide de briser ce rythme effréné. Jusqu'au 10 mai, le réseau piétonnier de Montréal se transforme en un laboratoire de la dualité. Pour nous guider à travers ce parcours entre ombre et lumière organique et technologique, nous recevons le directeur et fondateur du Festival Montréal Art Souterrain, Frédéric Loury. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour, bon matin.
Merci. Alors le thème du festival, là, je viens de le dire, on parle de dualité, ombre et lumière, réel, virtuel, organique, artificiel. Dans un environnement comme celui du Montréal souterrain, qui est par définition un lieu de passage rapide et fonctionnel, comment on peut amener ce thème à aider à faire ralentir les passants et à s'engager avec l'art?
Ah oui, c'est tout un défi. En fait, chaque année, depuis 18 ans, en effet, on est dans le réseau souterrain. Une des raisons pour laquelle on est dans ces différents passages, c'est parce que, en fait, le ralentissement se fait à différents moments de la journée. Alors, c'est sûr que le matin, c'est pas le meilleur moment pour capter l'attention des personnes qui circulent dans ces lieux parce qu'ils sont dans une dynamique de travail. Par contre, le midi, comme la fin de journée, les gens sont beaucoup plus captifs, intéressés et curieux à participer autant à des activités qui sont déployées gratuitement sur place que à découvrir des projets, des œuvres d'artistes d'ici et aussi d'ailleurs et qui sont dans leurs espaces habituels d'écosystèmes de travail. Donc on a vraiment ce grand défi, mais on finit par y arriver parce qu'on a ce qu'on appelle des médiatrices qui sont là pour informer les gens et qui viennent à leur rencontre pour décrypter les œuvres et leur permettre de comprendre un petit peu plus le sens de chacune d'entre elles.
OK. On remarque, par contre, ce n'est qu'il y a quand même, il me semble qu'il y a un nombre record d'œuvres participatives. On va vers l'interactivité. C'est une réponse donc à cette fameuse statistique là, des 4 secondes d'attention dont on a parlé tout à l'heure?
Oui, alors on essaye, c'est sûr, chaque année de rendre les gens, de les intéresser, d'éviter toute forme, on va dire, de dédain ou d'ignorance, par une participation physique des individus. Et pour ce faire, on a des œuvres qui sont conçues pour la participation. Je vais vous donner quelques exemples. Vous avez l'œuvre de l'artiste québécoise Fanny Giguère, qui est une balançoire. Et en s'installant sur la belle balançoire, on actionne un dispositif qui fait fonctionner des images qui sont diffusées sur écran. Et donc, on est un peu dans cette dynamique entre ciel et terre. Il y a aussi, pour vous donner un autre exemple, une œuvre de Gilles Tarabiscuité, qui ressemble un peu dans son format à un container, l'extérieur est en bois, qui nous font penser à ces grandes boîtes de transport qui notamment protègent des œuvres d'art. Et à l'intérieur, c'est la reproduction de sa cuisine, mais dans les années 70, et qui est de couleur jaune monochrome. Donc les gens rentrent à l'intérieur, on leur prête un casque de réalité virtuelle qui leur permet de faire un bond dans le passé et de se retrouver dans les années 70 avec l'ensemble des artefacts. Ça peut être autant une bière, un paquet de cigarettes, que les Canadiens qui jouent sur un écran. Et c'est un match qui se déroule dans les années 70, aussi bien que à travers une fenêtre, il y a la vie de différents individus dans une ruelle. Donc on joue beaucoup sur la spatialité, sur le physique, sur l'inclusion des gens dans une dynamique d'attraction, de plaisir et de compréhension.
Alors, on voit donc deux œuvres que vous venez de nous présenter, deux œuvres qui jouent sur le contraste hein, entre le réel et le virtuel. J'ai l'impression qu'on n'est pas, on essaie pas un peu mettre au défi les gens, le public, là, à voir ces deux mondes, à se confronter à ces deux mondes-là simultanément?
En fait, on est naturellement confronté à ces univers parce que beaucoup d'individus réveillent, consultent leur téléphone, vont chercher l'information, l'actualité à travers les médias, via différentes applications. Donc, on est habitué à être dans cette forme de dualité entre le physique et le numérique. Et en fait, nous, on est là pour le questionner, pour aussi amener les personnes à cohabiter, à rentrer en relation entre elles, parce que c'est sûr que plus on est dans cette distanciation humaine qui se fait par le biais technologique, un peu aussi comme les applications de rencontres ou des différents jeux qui sont proposés, ben ça peut nous déconnecter des humains, des communautés, d'un rapport qui est tissé par de la communication orale. Et donc, beaucoup d'œuvres sont là pour nous rappeler le sens même de notre lien qui a débuté plusieurs millions d'années, et de revenir à cet état de proximité, mais à travers des œuvres qui sont là pour nous amener à un questionnement.
Je vois aussi qu'on fait comme, c'est ce que j'essaie de, ce que je comprends plutôt, c'est qu'on essaie de, on a orchestré une rencontre entre la fragilité du vivant et la froideur de nos technologies. Comment vous avez réussi à orchestrer ça? Parce que c'est quand même deux façons de voir le monde. Et vous avez des œuvres, je pense, les créatures mécatroniques là, de Sylvie Michaud et le cocon de bois là, d'Adi Jamali.
Oui, alors, c'est hyper intéressant parce que Sylvie Michaud, qui vit à Sherbrooke, a mis en place une œuvre, ce qu'on appelle, c'est un peu comme une grande sculpture interactive. Et plus on rentre à proximité avec la sculpture, plus ça, les oiseaux, qui sont tous produits individuellement à la main, ont ce côté complètement unique et vulnérable. Ils sont faits en papier blanc, qui rappelle aussi le linceul, la mort, mais aussi le côté sacré de la vie. Et on voit, plus on regarde individuellement ces oiseaux qui battent leurs ailes, mais à des rythmes différents sous notre tête, plus on se rend compte en fait de la fragilité de l'existence, de nos écosystèmes, de voir que il n'y a rien d'identique. Quand on regarde par exemple un écureuil dans notre cour, on se rend bien compte qu'il y a chacun d'entre eux ont des particularités. Et donc c'est un peu ça, c'est de célébrer le vivant par le biais de petits mécanismes qui montrent toute la fragilité du monde. Et Adi Jamali, qui est d'origine iranienne, a reconstitué un peu c'est une immense structure qui est assez monumentale, dans laquelle on pénètre. Et dans cet espace, qui est en fait une célébration aussi au vivant par cette reconstitution de la forme d'un utérus qu'on retrouve chez tous les mammifères. On voit ces grandes, grandes parois et on se retrouve finalement dans un cocon. Mm-hmm. Et il y a une bande sonore, donc c'est vraiment un espace quadriphonique qui diffuse un peu de son qui nous rappelle le premier son du bébé qui est mis au monde. Et donc c'est très harmonieux, et donc ça a été la création d'une composition sonore pour nous ramener à l'état du vivant, mais aussi nous montrer que tout découle justement de cet utérus, de ce système de vie. On prend pour acquis chaque jour de notre vie notre place sur Terre, mais on en oublie un peu les origines, et on oublie aussi que chaque mise à bas, chaque naissance vient avec ses incertitudes, ses dangers. Et donc, ces artistes-là sont là pour montrer les contrastes de cette fragilité de vie.
Il y a un projet comme celui de Gabriel Mondor. C'est des peintures qui sont destinées à la destruction. J'ai comme l'impression qu'on est comme à l'opposé de la consommation de masse. Je me demande à quelle place occupe la notion de mémoire et d'immatérialité dans la vision donc de cette édition.
Oui, alors Gabriel Mondor, c'est un peu notre plus jeune artiste de la programmation qui a été composé par notre commissaire Ariane Plante. Gabriel, il a créé en fait tout un processus artistique autour de la perception. Parce que chaque être humain, quand il est face à une œuvre, a une façon bien à lui de la décrire, de aussi la vivre, de la communiquer. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a invité les gens à, via un appel, à acquérir une œuvre. Donc, chaque œuvre était vendue $50, qui couvrait à peine les matériaux de cette œuvre-là. On parle de 50 peintures qui ont été réalisées. Toutes les œuvres ont été acquises, mais il y avait une condition à ça. C'est quand la personne achetait l'œuvre, il fallait qu'elle accepte qu'elle soit détruite. Et en revanche, la destruction passait, donc l'artiste arrivait avec son dispositif chez l'acheteur ou l'acheteuse, et avec un système qui permettait de mettre la peinture dans un endroit sécuritaire et clos, il y mettait le feu et l'œuvre se consumait graduellement et rentrait en relation et en conversation avec la personne qui en était le propriétaire pour ensuite le faire parler et lui demander comment elle voit l'œuvre, comment elle la décrit. Qu'est-ce qu'elle voit de l'œuvre. Et donc, il a fait des enregistrements de l'ensemble de ces témoignages. Et donc, le résultat, c'est de voir un peu, ça prend la forme d'un monolithe, qui est placé d'ailleurs dans notre espace d'accueil, Place Ville-Marie. On est face à un grand monolithe avec des images qui permutent, qui sont des vidéos de des cendres, de ces peintures brûlées. Et il y a quatre casques d'écoute, et chaque casque, c'est une narration, c'est une personne qui décrit sa relation avec l'œuvre, ce qu'elle voit, ce qu'elle a vécu. Et donc, c'est assez bouleversant. Ça peut être assez cocasse, ça peut être aussi très drôle, parce que ce sont des personnes, on va dire, tout à fait normales et ordinaires qui parlent d'art avec leurs propres mots, sans qu'il y ait des codes. Et donc, c'est une façon vraiment de montrer en fait toute la force de la démocratisation de l'art.
On va devoir s'arrêter là-dessus. Frédéric Laurie, directeur et fondateur du Festival Art Souterrain à Montréal. Ça se déroule donc jusqu'au 10 mai dans les entrailles, qu'on dit, du centre-ville de Montréal. C'est un parcours de 33 kilomètres, le souterrain de Montréal. C'est quand même quelque chose, hein, ces passages-là. Merci beaucoup, Frédéric Laurie.
Merci de l'invitation.
Merci. Et nous, après la pause, on va parler du défi AlterGo avec Dominique Tremblay et on va terminer l'émission avec une entrevue avec Lyraël Dauphin pour son texte « Tombé de moi » qui n'est jamais lu. Et je vous rappelle donc aujourd'hui, il y a de la pluie ce matin. Puis pour la région de Montréal, ailleurs, il y a de la pluie presque toute la journée. Alors, mais c'est plus chaud. Bon, on sort le parapluie.